carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, dans notre série Grands comédiens et actualités du patrimoine théâtral, notre invité est aujourd'hui Philippe Cobert, qui est avec Michel Galabru à l'affiche du Théâtre Marigny à Paris, avec un spectacle à la fois réjouissant et grave, l'un des spectacles les plus simples, les plus profonds, les plus réussis de la première partie de la saison théâtrale 2010-2011, spectacle intitulé « Jules et Marcel », réalisé à partir de la correspondance échangée par Marcel Pagnol et Jules Rému, spectacle créé en 2007 lors du Festival de la correspondance de Grignan, Jean-Claude Carrière ayant tenu à la création le rôle de Marcel Pagnol, repris ensuite par Philippe Cobert. Philippe Cobert, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On découvre à travers cet échange entre Pagnol et Rému que non seulement toute leur vie, ils ont eu des liens très privilégiés et très créatifs, mais que ces liens étaient particulièrement complexes.
Oui, c'était des liens de véritable amitié, c'est-à-dire l'amitié, qu'est-ce que ça peut être, entre deux hommes en plus de cette trempe. Un mélange d'amour, de rejet, de compétition, de complicité, d'ironie aussi, d'esprit et de compréhension mutuelle. Au bout du compte, quand même, ils se sont bien compris. Ça n'a pas été sans aspérité, mais ils se sont compris. C'est ça qui est magnifique. Et puis, ça a été une amitié quand même très fructueuse parce que ils ont produit des choses inoubliables.
Mais dès le début, ça démarre sur un quiproquo. Quoi.
Oui, ça démarre sur un chapeau de roue, oui. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il faut replacer le contexte, resituer le contexte, mais Rému est déjà une grande vedette du music hall. Pagnol est un tout jeune homme. C'est un peu comme si, à notre époque, il était allé voir Coluche ou quelque chose comme ça.
Mais il avait fait Topaz, quand même.
Oui, mais enfin, Rému, c'était un monstre. Hein. Non, avant Topaz et Marius, lui dit Pagnol. Alors, je ne suis pas du tout, pardon pour l'académie, bon dans les histoires de chronologie, vous avez peut-être raison, mais
c'est curieux parce que
Pagnol, à un moment donné, lui dit, quand je suis venu te voir dans ta loge à Marigny, avant Topaz et Marius, je n'étais rien du tout. Donc, je ne sais pas...
Alors, c'est peut-être moi qui me trompe.
Hein. Eh bien, non.
Au début de la carrière.
L'entrevue, je crois qu'il était vraiment un blanc-bec, quoi. Et donc, le courant n'est pas obligatoirement passé tout de suite, parce que Rému lui a dit, mais oui, vous savez, Marcel Achat a écrit pour moi, il y a Tristan Bernard, donc je vais lire votre galéjade marseillaise, mais je ne suis pas sûr du tout qu'elle m'intéressera. Et surtout, Pagnol lui proposait de jouer Panis. Et d'emblée, il a dit non, c'est César.
Et en plus, il voulait faire jouer, et il a fait jouer Pierre Fresnay en même temps.
Alors en plus, il y a eu l'histoire Pierre Fresnay, puisqu'en effet, pour Marius... Pagnol lui propose Pierre Fresnay et que Rému tempête en disant quoi, tu vas faire jouer le patron d'un bar marseillais à un Alsacien protestant. Tu en as déjà vu, toi, des patrons de bar marseillais. Et d'ailleurs, Pagnol se défausse puisqu'il n'argumente pas, il lui dit juste que c'est le directeur du théâtre qui assiste beaucoup, donc on ne peut pas discuter.
Mais en fait, Pagnol va lui pardonner beaucoup à Rému parce qu'il sait tout ce qu'il lui doit, quoi.
Ben oui, en effet, puis surtout, je crois que Pagnol avait, c'est quelqu'un qui aimait les acteurs, avait vraiment la conscience que c'est spécial le théâtre, qu'écrire du théâtre, c'est pas comme écrire un roman ou ça dépend, même pas que le cinéma, ça dépend énormément des acteurs. C'est une création qui se fait vraiment au moins à deux, c'est-à-dire entre un auteur, un poète et un acteur, et que sans l'acteur, la création n'a pas grande valeur, et vice-versa, bien entendu. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs une notion qu'on a un peu perdue à notre époque, mais c'est une époque où vraiment les auteurs dramatiques ne pouvaient pas imaginer l'accomplissement de leur œuvre sans la personnalité des comédiens.
Alors, il y a une phrase que vous dites, hein, que tu sois le roi des emmerdeurs, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que tu es le roi des comédiens. C'est quand même sympa, ça.
Oui, alors c'est encore une manœuvre diplomatique hein, pour amener Rému à quelque chose, je ne sais plus à quoi, là, ça ne me rappelle plus, parce que quand on joue une pièce dans la journée, c'est difficile de se rappeler exactement les mots de la pièce et les thèmes. Mais en tout cas, c'est... Voilà, ça propose d'Alibert.
Alibert.
Rému en a gros sur la patate, surtout qu'Alibert a dit dans une interview que Rému était le roi des emmerdeurs. Donc Pagnol essaye d'arranger le coup.
Je ramasse le...
Voilà. Donc oui, mais c'est des compliments et qui ne sont pas, comment dire aujourd'hui, démagogiques, c'est des compliments vrais. Il le pense vraiment. Alors après, c'est aussi en effet de la politique. Il faut arriver à réconcilier Alibert et Rému, et ça, c'est pas une mince affaire.
Alors, il y a évidemment toute cette histoire d'amitié, mais derrière cela, il y a aussi toute une réflexion sur la création. Et en particulier, cette phrase étonnante que vous dites à propos des mots et de ce qui compte sous les mots. Vous vous souvenez de la phrase ?
Oui, il dit « ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce qu'on met dessous, les choses importantes ne se disent pas, elles sont sous-entendues ».
Ouais. C'est l'alchimie, ça, de la création.
Alors, on peut... Oui, enfin, moi, je le prends, quand je le dis, plutôt sur un ton personnel, sur les choses de l'amitié, de l'amour, les choses qui ne se disent pas, surtout qu'en amitié, en amour, on a toujours tendance à parler trop. Mais, en effet, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que quelqu'un, encore, il y a deux jours, m'a fait cette réflexion. J'ai dit, si, tiens, c'est vrai qu'on pourrait aussi l'entendre sur le plan artistique. Dans l'écriture d'une pièce, par exemple, il ne faut pas tout dire, pas tout mettre. Et puis, je le prends pour moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit plutôt trop. Je l'avais jusqu'à présent envisagé sur le plan personnel, quoi. Mais c'est en effet une loi artistique importante.
Ouais. Parce qu'Anouilh a écrit des choses là-dessus qui ne sont pas très éloignées. Hein. Mm-hmm. Alors, c'est un spectacle qui a de la bouteille. Hein. Il a été créé en 2007.
Ans, oui.
Donc, vous avez repris, vous, le rôle à Héberto. Vous avez tourné...
En fait, oui. L'histoire, c'est que Jean-Pierre Bernard, qui est le récitant dans le spectacle...
Remarquable, d'ailleurs. On ne parle jamais de lui. Il est d'une pudeur, d'une simplicité, d'une élégance remarquable.
Tout à fait. D'ailleurs, nous nous chargeons d'en parler, Michel et moi, chaque fois qu'on en a l'occasion. A eu cette idée avec Pierre Tréhardy, pardon, qui est l'adaptateur de ce courrier. Et il me l'avait proposé quand j'étais encore pris dans mon autobiographie. Donc, c'était pour une journée au Festival de Grignan, Festival de la Correspondance de Grignan, qui est un festival formidable, et dont le thème était le cinéma. Et c'est la famille Pagnol, quand il leur a dit qu'Aubert n'est pas libre, qu'il leur a, et il lui a dit, vous voyez quelqu'un? Il leur a dit, oui, Jean-Claude Carrière. Ils étaient amis avec lui, il avait fait la voix off, une adaptation de Pagnol à la télé. Il est marseillais, donc il avait fait ce rôle pendant cette soirée unique à Grignan, qui a eu un grand succès et qui a donné à Jean-Pierre l'idée de monter le truc à Paris. Et c'était 2 ans après, et à ce moment-là, j'étais libre, donc j'ai volé le rôle à Jean-Claude. D'ailleurs, ça a failli être lui encore, il s'est trouvé qu'il a été opéré, je ne sais plus de quoi. Donc, il était indisponible et du coup, c'est moi qui en ai hérité.
Alors, ça n'est évidemment pas facile d'occuper une scène de théâtre avec Michel Galabru, qui prend beaucoup d'espace, mais avec beaucoup, beaucoup de talent. Et vous le faites avec beaucoup d'intelligence et de finesse. On a l'impression que vous restez un petit peu en dedans, pour ne pas être en concurrence avec lui, jusqu'au moment de la scène finale, où alors là, vous ramenez la couverture avec un superbe texte de Pagnol. Là, on voit que c'est le grand écrivain, quand même, sur la mort de Rému. Vous l'avez un peu en tête ou
Une
phrase ou deux, c'est extraordinaire. Là, on entend les mouches voler. Hein. Et tout à coup, vous vous imposez
dedans.
Là. Oui, mais c'est délibéré de votre part.
C'est difficile quand on joue le soir de se rappeler du texte.
Mais c'est délibéré de votre part de rester un petit peu en dedans.
Non,
et puis, hop, à la fin de...
Ça vient vraiment du texte. Mon rôle est un peu celui du clown blanc. D'ailleurs, c'est drôle, parce qu'il y a un clown, un vrai clown, qui est venu voir le spectacle et qui m'a écrit un mot qui m'a touché beaucoup. Il m'a dit, vous êtes un grand clown blanc. C'est exactement le travail que je fais avec mon comparse, Lustin Auguste. Et c'est le clown blanc et l'Auguste, vraiment. Et puis dans cette correspondance, en effet, on laisse Rému tempêter et exploser. Et derrière, Pagnol le suit, l'accompagne, le recadre. Donc il a vraiment ce rôle. Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas pendant toute l'histoire de ce spectacle même. Puisqu'au début, moi, je ne savais pas très bien comment prendre les choses. J'avais pris le pri d'être le plus en retrait possible. Simplement de prendre un peu l'accent de Pagnol, c'est-à-dire de pousser un peu mon propre accent. Je n'ai pas beaucoup l'accent du Midi, mais de le pousser un peu. Et de prendre cet accent Pagnol que j'adore, qui est beaucoup plus à l'intérieur, qui rentre comme ça. Mais de pas le copier, mais d'aller vers ça. Et en effet, et puis c'est petit à petit, au fur et à mesure des représentations, au fur et à mesure des tournées, on a fait une grande tournée, que j'ai pris ma liberté, mais j'ai laissé faire les choses doucement, d'une manière comme ça, naturelle. Et que j'ai commencé d'abord un peu à improviser, et puis Michel m'a suivi avec enthousiasme, et puis à essayer, tout en l'accompagnant, et bien sûr en le mettant en vedette, c'est lui la vedette, hein, y a pas, c'est vrai de Rému et de Pagnol.
Oui, mais
c'est vrai de Galabru et de Cobert.
Philippe,
c'est
quand même...
Philippe.
Non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a le texte.
Mort ou est la victoire, elle est dans le.
non, mais il y a
elle
le texte.
Elle est dans l'éloge funèbre, voilà, on peut
Pagnol
dire.
Pagnol existe quand même par le texte, quoi. C'est déjà,
sûr,
rien que par le texte.
Non,
alors, vous disiez que vous improvisiez. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que votre carrière a fait une large part en improvisation, avec des spectacles merveilleux comme le roman d'un acteur. Le soir où je vous ai vu, je n'ai pas été capable de déceler à quel moment vous ajoutiez des digressions qui n'étaient pas dans le texte.
Ah c'est formidable. Ça veut dire que l'improvisation a réussi. Parce que l'improvisation...
Ça veut dire aussi que Galabru vous suit.
Ah, bien entendu. Il me suit ou me précède. C'est là où on s'est vraiment bien entendu avec Michel. C'est que le jour où j'ai commencé un peu à sortir du texte, je me suis dit comment il va le prendre.
Oui.
J'ai vu son œil s'allumer et il a suivi dans la seconde. Et c'est drôle que deux acteurs de générations différentes, puis surtout d'écoles complètement différentes, inverses, il vient du musical, du théâtre, du cinéma, du théâtre de boulevard, et je viens de chez Ariane Mouchkine, se soient retrouvés, disons, ad hoc sur ce terrain de l'improvisation. Et en effet, improviser, c'est compliqué, il faut rester dans le personnage, dans le style, il ne s'agit pas de faire des mots d'auteur, ou alors il faut que ce soit vraiment les mots du bon auteur et pas de l'autre, etc. Mais si vous n'avez pas repéré l'improvisation, c'est que vous n'avez pas compris l'allusion aux Hongrois, alors.
Oui.
Parce qu'il y a une allusion aux Hongrois, parce qu'il y a une dispute sur
Vous me l'expliquez.
Sur un metteur en scène hongrois que Rému essaie d'imposer à Pagnol. Et là-dessus, je fais une digression sur ce que vont devenir plus tard les Hongrois, dont un Hongrois qui habite pas loin d'ici, puisqu'on est à côté de,
Présidence
de la République.
Alors, il y a une... Ah, d'accord. D'accord, mais je n'avais pas perçu ça. Nicolas Sarkozy.
Et oui, en plus, était... la cantine de Rémus, c'est le Fouquet's. Donc, vous voyez...
Bon. Oui, donc, il y a des liens. Alors, il y a une chose quand même curieuse, c'est qu'aujourd'hui, vous jouiez le personnage de Pagnol, alors qu'il y a 20 ans, dans un film célèbre, vous jouiez le personnage de son père, Joseph. Oui. Est-ce que la première expérience a servi à la seconde ou pas du tout ?
Ah oui, bien sûr.
Oui ?
Oh bah oui, certainement. Bon, moi, Pagnol, je dirais que tous les enfants du Midi, et les Marseillais, les petits Marseillais, on est tous avec Pagnol à côté de nous. Hein. Oui, c'est, c'est presque une deuxième enfance imaginaire, Pagnol. Et quelles que soient les époques et tout, ça reste valable encore aujourd'hui. Donc la première fois où j'ai vraiment approché Pagnol, ça a été avec la gloire de mon père, le château de ma mère, et grâce à Yves Robert. Et que ça a été très important pour moi, parce que j'ai cherché justement dans ma propre histoire, que ce soit chez mon père, chez ma grand-mère, etc., qu'est-ce qui pouvait être de la nature de Pagnol pour le jouer, pour incarner son père, Joseph. Donc évidemment, quand je suis arrivé là, c'était tout à fait...
Mais vous étiez déjà dans le bain.
Voilà, quoi. Bien sûr.
Ce qu'on ne sait pas, enfin ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le nom de Pagnol est d'origine espagnole.
Oui.
Non seulement d'origine espagnole, mais d'une famille de Romano, qui au XVe siècle s'est réfugié en France et rentré dans le... comme tous les Romano qui sont venus d'Espagne, dans le métier des armes, jusqu'à ce que son grand-père fasse autre chose et s'occupe des pierres. Mais c'est quand même un peu curieux que Pagnol, qui est aujourd'hui l'incarnation même de la France, dans ce débat aujourd'hui sur l'immigration, sur les Romano et tout ça, quand on pense que Pagnol...
Oui, de toute façon, tout est curieux dans ce débat, parce que je vous dis même le Hongrois... Bon.
Ouais, c'est quand même sidérant, quoi, de voir que l'incarnation de la France...
On peut même penser que c'est à cause de ça. Oui, est-ce que Pagnol est l'incarnation de la France ? J'en suis moins sûr que vous. Il est vraiment l'incarnation de la Provence et reste, je trouve, encore un auteur parfois sous-estimé de ce fait-là.
Ça, on y reviendra. On y reviendra.
Je trouve qu'il...
Mais à l'étranger, c'est quand même la France.
Mais je ne connaissais pas. J'avais entendu l'histoire de Pagnol, origine espagnole. Je ne savais pas tous les détails que vous venez de donner, dans les armes, etc.
Oui,
je savais que son grand-père était dans les carrières, qu'il faisait...
À Lyon, oui, son grand-père est monté à Lyon.
Oui, et c'est son grand-père qui était dans la carrière.
Oui, c'est ça. La pierre. Il était appareilleur de pierre.
Voilà.
C'est quand même quelque chose de très, très précis.
Oui,
hein.
Oui.
Il était d'ailleurs étonnant, ce grand-père, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il avait 6 enfants. Et vous savez ce qu'il voulait faire de ses 6 enfants ?
Non.
Des instituteurs et des institutrices.
Voilà, ben, il y est arrivé.
C'est quand même fabuleux sur l'assimilation de la Troisième République, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
C'est quand même une chose tout à fait étonnante. Alors dites-moi, est-ce que c'est vrai l'histoire qu'on raconte que Pagnol, donc, qui fait des études brillantes, qui commence à traduire Shakespeare, Hamlet, et qui fait une première pièce de théâtre sur Catulle, donc c'est quand même pas n'importe quoi, vient à Paris, enseigne l'anglais au lycée Condorcet, et aurait refusé de passer l'agrégation parce qu'il était tellement passionné par le monde du théâtre qu'il voulait pas être nommé en province. C'est vrai
ça ? Ah ça, alors là, vous me l'apprenez.
J'ai vu ça dans ton discours de réception à l'Académie française.
Eh ben voilà. Ben, vous voyez,
c'est quand même sidérant d'avoir une telle passion du théâtre qu'on refuse de passer l'agrégation. C'est quand même...
Oui, ben, écoutez, vous voyez, il a vu juste en tout cas.
Ouais. Alors donc son premier succès, un Dart de 1925, c'était Les Marchands de Gloire, une histoire de magouille politique. Mais en fait, ce qu'il a lancé, c'est en 28, c'est Topaz.
Oui.
Et puis en 29, il va y avoir Marius. Quoi. Tout à coup, c'est la gloire.
Oui, ben oui, c'est une gloire très jeune. C'est ça qui est étrange avec Paris, la province, etc., c'est que, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si Pagnol représente la France, en tout cas, le grand succès parisien vient de la province, quoi, même de l'ancienne Provence. Et il vient, c'est Marseille, sur la scène, sur les théâtres parisiens. Et il se trouve qu'à l'époque, tous les directeurs de théâtre étaient tous marseillais, il y avait un vrai lobby marseillais.
Ah, c'est vrai ?
Ah oui, il y avait vraiment une mafia marseillaise. Ah oui, tous les directeurs de théâtre étaient des marseillais. Il y avait des bars uniquement marseillais, il y avait des restaurants uniquement marseillais, où ils se retrouvaient tous, et il y avait vraiment une bande d'acteurs, metteurs en scène et auteurs qui étaient tous de Marseille, quoi. Et donc, c'est vrai que le grand succès de ce théâtre, vraiment proprement marseillais, et peut-être de ce fait-là universel, parce qu'il est vraiment marseillais, se passe à Paris, bien sûr. Ça, c'est... Voilà, l'histoire continue, vous voyez, puisque... On vient tous à Paris.
Tant mieux pour nous, hein, à Paris. Voilà. C'est... Alors, il y a une chose tout à fait étonnante à ce moment-là. Donc, il connaît la gloire très jeune avec Topaz et surtout avec Marius. Et puis, cette anecdote, je pense que vous devez la connaître. Dites-moi si elle vous paraît authentique, en tous les cas. Il dîne un soir rue Blanche, donc alors qu'il vient de connaître le grand succès, et passe un de ses amis qui lui dit « Écoute, je rentre de Londres, je suis allé au Palladium et j'ai vu un truc là qui s'appelle Broadway Melody, oui. Des images qui parlent, il faudrait que tu vois ça. » Et le lendemain, oui. Pagnol part à Londres et dit « Là, ça,
oui,
ça
oui,
je ne peux plus faire comme avant. » C'est exact, ça ?
Oui, c'est vrai. Il a passé 2 jours à regarder le film en boucle et il a compris tout de suite que c'était l'avenir, quoi, que c'était ce que serait le cinéma, ce que ne comprenaient vraiment pas les autres, et ça on le voit dans la correspondance, puisque Rému lui dit que ça restera une attraction foraine. Et d'ailleurs, il lui donne aussi des arguments très justes sur le fait qu'au théâtre, on peut changer tous les soirs, les acteurs peuvent changer, alors qu'au cinéma, c'est mort, c'est tout à fait juste. Mais il a aussi, il voit pas le... Mais Pagnol, c'est un grand auteur, c'est un grand artiste, mais c'est un génie. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a toujours pas bien compris dans... disons la moyenne des valeurs artistiques en France, c'était un génie, Pagnol. Il s'intéressait à tout, il s'intéressait aux découvertes scientifiques, il s'intéressait à Shakespeare, il a fait des traités philosophiques, traités sur le rire, des traités. C'est un esprit vraiment, un esprit des Lumières, ouvert complètement, un véritable esprit français, ayant gardé sa nature, sa patrie provençale. Moi, il me fait penser à Chaplin souvent, mais c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi.
Et avec ce côté artisan donc, de ses ancêtres, parce que quand il découvre le cinéma, ensuite il va travailler pendant 2 ans à la Paramount.
Oui, il va apprendre tous les métiers du cinéma.
Il va apprendre tous les métiers, c'est ça.
Il va apprendre le montage, la distribution, la production, tous les métiers pratiques. Mais je ne sais pas, vous disiez, son grand-père était dans les pierres. Quand ils ont reconstruit le village en Provence pour la femme du boulanger, je crois, ils l'ont reconstruit en vrai. Et Pagnol venait le matin, il taillait les pierres. Avec les tailleurs de pierre. Oui, c'est ça la vraie culture.
Par exemple, quand on lit Manon des Sources, quand on voit la connaissance qu'il a du métier des sourciers, entre guillemets, c'est fabuleux. Quoi, cette passion de la science,
le grec,
de la technique.
Le latin, et les sources, et il parlait provençal avec les ouvriers.
Ouais. Alors, il passe 2 ans à la Paramount. Là, on peut se dire que les voies du cinéma vont être ouvertes spontanément, mais pas du tout. Il n'arrive pas à faire monter Fanny.
Oui.
Il va arriver à faire monter Marius, ça va être un énorme succès, mais derrière, on ne lui donne pas carte blanche et il est obligé de devenir lui-même producteur. C'est comme ça que ça se passe ?
Ça, je ne sais pas. Mais vous m'apprenez, je suis à l'académie, hein, je suis là pas...
non.
Moi, je ne suis pas spécialiste de Pagnol, donc j'écoute avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous m'apprenez.
Mais donc, il devient producteur et il fait tout à ce moment-là.
D'accord.
Et pendant 10 ans, il ne fait que du cinéma.
Je savais qu'on lui avait imposé Alexandre Corda au départ, puisque lui, il ne connaissait pas la technique du cinéma. Mais Corda a fait le deuxième film, je crois aussi, non ? Marius, Fanny, c'est Corda encore qui l'a fait, je crois.
Mais pas César.
Ah, César, non.
Et César qui, en fait,
il a pris
le
pouvoir.
Oublient,
quoi.
C'est que mais comme César Chaplin, a été créé au cinéma.
C'est exactement comme Chaplin, dans sa société de films, dont je ne sais plus le nom, où il a fait tous ses courts-métrages, et un jour, il en a eu marre, puis voyant le succès qu'il avait, il a exigé d'avoir la production, et est devenu auteur.
Donc là, on voit le génie multiforme d'un homme qui est capable de tout, quoi.
Oui, absolument.
Alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Je ne sais pas si vous aviez vu ce spectacle, c'était en 2008, au Vieux Colombier, la Comédie Française, qui a mis du temps à reconnaître Pagnol, hein, parce que Pagnol est mort en 1974, je crois.
Je l'ai vu à la télévision, ce spectacle.
2008.
Celui dont vous parlez.
Et ceux qui ont assisté à ça, moi j'y étais parmi plein d'autres, on a été estomaqués, parce qu'ils avaient décidé de faire un Fanny sans accent.
Oui.
Et tout à coup, qu'est-ce qu'on découvrait ? C'était une critique sociale, une force, un réalisme qu'on n'avait jamais soupçonné. Quoi.
Mmh.
Donc, ce que vous disiez sur la profondeur de Pagnol et tout ça, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, Pagnol n'est pas victime de l'accent ?
Moi, je suis absolument en désaccord radical avec ce que vous me dites et avec ce spectacle. Oui, absolument. Au contraire. Moi, je n'ai pas vu du tout ce que vous avez vu. J'ai vu Plus belle la vie, moi. Vous voyez, donc, j'ai vu un spectacle fortement influencé par Plus belle la vie. C'est-à-dire ce qu'on peut produire de pire sur le plan de la culture marseillaise. Oui. Je pense que l'accent du Sud est à Pagnol ce que la langue italienne est à Fellini ou à, si vous voulez, au film néo-réaliste italien. Donc c'est quelque chose qui est totalement, qui a un sens, qui a une nature, qui a une personnalité, qui a une musique, surtout une musicalité, surtout la musique. Et quelque chose qu'on ne peut pas évincer comme ça. Ça, c'est vraiment une idée de Parisien.
Non,
je parle de la metteuse en scène qui a mis en scène.
Il ne s'agit pas d'évincer.
C'est une idée de Parisien que de dire on va monter Pagnol sans accent. Non, vraiment une idée de Parisien.
Non, il ne s'agit pas d'enlever l'accent
de
Pagnol.
De croire, de révéler
le fond de Pagnol.
De croire qu'il n'y ait pas d'accent, ça n'existe pas. Il y a des accents, même à Paris. Tout le monde a un accent. De croire que le non-accent. Ça, c'est des idées de théâtreux, de croire que le non, c'est ce qu'on apprend dans les cours d'art dramatique, enlève ton accent, mais si on enlève son accent, on en prend un autre. Ça n'existe pas, l'absent neutre n'existe pas. Là, il y a toujours un accent et il exprime toujours quelque chose. C'est pour ça que tous les acteurs sont tellement mauvais. La plupart des acteurs sont très mauvais parce qu'ils jouent dans un accent qu'ils ne connaissent pas, mais ils ont entendu un autre acteur jouer à cet accent-là, donc ils le copient, le reprennent, etc. Ils ne savent plus du tout qui est le leur. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'acteurs du Sud ont beaucoup de mal à retrouver l'accent du Midi, parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce que c'est cet accent. Non, d'abord, je pense que Marius, pour moi, Marius Fanny, c'est beaucoup plus qu'une critique sociale, c'est la tragédie antique. C'est une tragédie grecque.
Oui, mais est-ce
vraiment,
qu'avec l'accent,
si on voit...
Ce que je veux vous
si
dire, c'est qu'avec l'accent, on perd souvent le fond de cette tragédie.
Parce que non. Vous êtes gêné par quelque chose. Je vous dis, c'est pour moi, voir Pagnol sans accent, c'est comme voir un film de Fellini traduit en français, quoi. Doublé en français.
Non, je ne suis pas en train de vous dire ça.
Je vous parle sincèrement.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous sommes tous très heureux de voir Pagnol avec accent. On ne voit pas comment on pourrait l'entendre sans accent. Mais que quelqu'un, une fois, le fasse sans accent, tout à coup, on se rend compte de la richesse du texte.
C'est ce qui vous a fallu à vous, Parisiens.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est ce qui vous a fallu à vous, Parisiens, ou académiciens. Mais nous autres, on n'a pas eu besoin de ça. On a
franchement, Philippe, vous croyez franchement.
Non,
le public se rend compte.
Au contraire, moi, j'ai trouvé que ça banalisait la pièce terriblement.
Alors, je vais vous donner des exemples. Hein. Face au procureur.
Il n'y a qu'une idée de la comédie française. Enfin, c'est la comédie française qui peut inventer un truc pareil.
Alors, regardez, Les Marchands de gloire, c'est une critique des magouilles politiques.
Ah oui,
féroce.
Ça, c'est autre chose.
Topa,
oui.
C'est une critique du pouvoir de l'argent. Féroce.
Déjà, je suis moins d'accord avec vous. Topa, c'est une pièce beaucoup plus profonde que ça.
Ouais,
c'est pas simplement une critique de quelque
chose.
Il y a des personnages extraordinaires.
La trilogie,
le comportement humain.
La trilogie, c'est la puissance des conventions. La pauvre Fanny, elle est sacrifiée aux conventions. Vous prenez Manon des Sources.
C'est la tragédie grecque.
Vous voyez le papé.
C'est la tragédie.
Le papé, c'est du cynisme radical, quoi. Et ça, avec l'accent, on le perd un peu, non ?
Non, je ne peux pas vous dire oui. Hein,
je ne suis pas d'accord.
Non, je ne pense pas. Je vous dis, c'est comme la tragédie grecque. Est-ce qu'il faut la jouer sans accent pour en comprendre la force ? Non, tant mieux si c'est joué en grec, en plus. Non, je crois que l'accent est un des derniers vestiges qui nous reste de ce qu'est vraiment la France, c'est-à-dire plusieurs pays. Et pas un seul. Ça, c'est des trucs de Napoléon, ça, ou de Louis XIV,
je vais vous poser
de vouloir qu'il n'y ait pas d'accent
et
que la France
Breton,
soit une seule... Non, c'est pas vrai, je crois pas.
Non, le côté santon marseillais ne vous gêne pas, quoi.
Le côté santon, oui, mais l'accent marseillais n'est pas obligatoirement un accent de santon.
D'accord.
Bon. Donc, je serais irréductible là-dessus. Et j'en ai fait l'expérience dans tous mes spectacles depuis 45 ans.
Bon, je voulais...
Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à faire du théâtre et que je suis entretien du soleil, d'avoir un metteur en scène, un maître. C'était un maître, Ariane, qui nous obligeait à conserver notre accent, mais même à travailler dessus et à trouver là où il était juste, là où il était faux, et à l'ennoblir, je dirais, à lui donner sa noblesse.
Les deux photographes de l'Académie des Beaux-Arts, Lucien Clergue et Yann Arthus-Bertrand, se livrent au micro de Canal Académie pour vous donner leur regard respectif sur l'univers de la photo. Rencontrés au musée Marmottan Monet où une exposition leur était consacrée, la Camargue natale de Lucien Clergue et le Paris vu du ciel de Yann Arthus-Bertrand sont à l'honneur. Lucien Clergue, Yann Arthus-Bertrand, regard croisé inattendu en terre impressionniste, une émission Carrefour des Arts à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Il y a un endroit où Pagnol a été reçu, je dirais, royalement, c'est l'Académie française.
Oui.
Autant la Comédie française a mis des années, puisque 2008, oui. Donc 2008, ça fait 40 ans après sa mort.
Oui.
Même pour être accueilli, vous ne l'avez pas aimé, moi je l'ai aimé, mais bon,
oui.
C'est pas
là,
la question.
Ça, chacun,
par contre, l'Académie française l'a accueilli dès 1946. Dans des conditions d'ailleurs tout à fait étonnantes. Hein. Je crois que vous avez un souvenir, vous ne l'avez pas entendu, mais
quand j'ai,
des échos
quand
du
j'ai
discours.
Quand j'ai joué Joseph Pagnol, j'avais entendu parler du discours de réception de Pagnol. L'hommage était à Marcel Achard, qui était un vieux copain à lui. Et j'avais demandé à Yves de me retrouver un enregistrement de ce discours. Et il m'avait trouvé une petite cassette. Et j'ai écouté ça en boucle, mais c'est extraordinaire. Et après, j'ai vu des documents filmés, parce qu'il avait fait rentrer les caméras pour la première fois.
Ouais, pour la première fois.
Et on voit tous ces vieux académiciens, ils étaient très très vieux certains, mais au bord de la mort de rire. C'est-à-dire, non seulement c'était amusant, mais c'était à mourir de rire. C'est un discours burlesque, où il raconte comment Marcel Achard prenait des coups de pied dans le cul, c'est comme ça qu'il l'a rencontré sur les scènes, parce qu'il était comédien dans une troupe de Comédia dell'Arte. Et vraiment, là, c'est... On parle de l'esprit comme ça, ou l'esprit, je ne sais pas si c'est l'esprit français, l'esprit parisien, l'esprit... Mais là, c'est le triomphe de l'esprit, quoi, et de Pagnol, quoi, et son style, et son humour tout en retenue, on pourrait presque dire c'est un humour anglais, quoi, c'est-à-dire c'est un chef-d'œuvre d'écriture, de littérature, d'esprit, d'amitié, et c'est à mourir de rire, quand on a l'occasion, il faut vraiment l'écouter.
Alors j'ai retrouvé le texte du bloc-notes de François Mauriac consacré à cette réception de Marcel Pagnol. Ah, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de cette phrase, parce que moi je la trouve un peu sibylline. Hein. Pagnol, le seul à ne pas avoir de socle, il semble s'être glissé dans cette antichambre de l'éternité en passant par la fenêtre, le seul qui sente l'air du dehors.
Ben oui, c'est vrai, il a raison. J'adore Mauriac, j'ai une admiration héritée de ma mère pour Mauriac sans borne.
Il adorait Pagnol, hein, ceci étant.
Oui,
mais cette phrase-là, c'est pas un peu le réduire à Marseille, en fait ?
Je trouve pas. Vous êtes obsédé, vous ? Qu'est-ce que vous avez contre Marseille ? C'est une question de football ?
Je suis pas un fan de l'OM. Je suis pas un fan de l'OM du tout.
Moi, je suis un fan de.
Là, pour ça, vous n'êtes pas Marseillais.
Le football. Non, mais parce que c'est pas Marseille.
Vous préférez la tauromachie.
Voilà, le foot, ça a été inoculé, ça a été mis par-dessus. C'est pas le foot, Marseille.
Plus longtemps.
C'est un grand mensonge. Réduire Marseille, surtout à ça. Mais non, je trouve que c'est une belle phrase, l'air de dehors qui rentre dedans. C'est juste. Oui, tout à fait.
Alors, vous parliez du rire chez Pagnol. Alors, le rire de Pagnol, c'est pas du tout le rire de Guignol. Hein. Il y a un texte. Est-ce que vous avez un petit peu en tête le. Moi, je l'ai sous les yeux. Hein. Quand Pagnol parle du rire, c'est quasiment. Ça confine la tragédie. Hein.
Oui. D'ailleurs, c'est pas une lettre, ça. C'est une tricherie un peu. C'est un dialogue qu'il y a dans le Spoons et qui est repris dans les notes sur le rire, je crois, de Pagnol. Qui est absolument magnifique, où il dit « J'ai voulu faire rire ceux qui reviennent de l'usine avec les mains tellement dures qu'ils ne peuvent plus les fermer, faire rire ceux qui sortent des bureaux avec leur petite poitrine qui ne savent plus le goût de l'air, faire rire ceux qui reviennent de l'usine à tête basse, les ont cassé de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts, faire rire ceux qui mourront, faire rire tous ceux qui ont perdu leur mère, celui qui leur fait oublier un instant les petites misères ou la mort, celui-là leur donne la force de vivre, on l'aime comme un bienfaiteur.
Ouais, c'est ça.
On pourrait dire Saint Molière, on devrait dire Saint Charlot.
Ouais, c'est ça. Et c'est là où on voit la dimension de Pagnol. Quoi. C'est assez formidable. Alors, si nous vous avons demandé de venir, c'est non seulement parce qu'il y a ce spectacle, bien sûr, mais parce qu'il nous semble quand même qu'il y a entre vous et Pagnol un certain nombre de points communs. Hein. Alors, je vais vous en donner quatre. Premier est une évidence, c'est Marseille.
Oui.
Le second, vous avez tous les deux un goût pour les œuvres au long cours. Hein. Quand même, la trilogie, l'autobiographie... Vous, le roman d'un acteur et le reste.
Merci.
Et puis, vous avez tous les deux, alors je dirais d'une façon assez rare, un sens très aigu de la complémentarité théâtre-cinéma.
Oui.
Et le dernier point, la volonté de prendre délibérément vos affaires en main. Vous aussi, vous avez créé une société.
Oui.
Alors, à travers tout cela, en quoi vous sentez-vous le plus proche dans votre démarche de celle de Pagnol ?
Écoutez, c'est un compliment tellement énorme qu'il faut que je le cale sur mes épaules, là.
Prenez-le. C'est pas de la flagornerie, c'est de la...
J'aimerais avoir son talent d'écrivain, ça c'est sûr. Donc, je préférerais parler de ce dont je suis démuni. En tout cas, je me mets certainement à l'école de Pagnol sur ce plan-là. Sur le reste, je pense que à partir de... Moi, je n'ai pas appris de Pagnol l'idée d'être mon propre producteur. Je l'ai appris d'Ariane Mouchkine. Je pense qu'à partir du moment où on s'engage dans ce métier autrement qu'en étant juste, disons, un acteur qui vend ses charmes à la demande, c'est-à-dire si on veut vraiment créer quelque chose, réaliser quelque chose, on est obligatoirement amené à se bâtir un cabanon ou une forteresse, ou suivant la personnalité, suivant ce qu'on fait. Mais on est obligé de devenir indépendant parce que c'est le seul gage de liberté. Enfin, je dis déjà, j'énonce des banalités, mais c'est la seule manière, c'est la seule possibilité de construire quelque chose à long terme. Il ne faut pas vendre ses droits, il ne faut pas faire des choses comme ça. Si on vend ses droits, c'est fini, ils vont être achetés partout et vendus partout. Donc déjà, au départ, il faut savoir si on veut, soit si on veut gagner de l'argent, soit si on veut faire une œuvre. Déjà, c'est un choix important. Alors, il peut y avoir les deux, hein, Pagnol a gagné de l'argent. Mais je crois que vraiment, si on veut réaliser quelque chose d'artistique et le réaliser vraiment, il faut être son propre patron, sinon on est obligatoirement entouré de gens qui, eux, cherchent à vous faire dévier de ça, qui cherchent. C'est normal, c'est leur métier, c'est leur boulot, des directeurs de théâtre, des producteurs, des distributeurs qui cherchent à tirer profit de ce que vous avez fait, c'est absolument normal, mais il faut résister à tout ça. Donc ça, voilà. Après, d'être de Marseille, il n'y a pas que Pagnol et moi, on est...
Oui, mais votre Marseille n'est peut-être pas tout à fait le même. Vous, il y a l'influence de Suarez.
Oui, mais quand même, je suis marseillais de chez Marseille. Hein. Mon père était marseillais, j'habitais à Saint-Louis dans les quartiers nord. Alors, en effet, mon père était patron d'usine et mes petits copains étaient les enfants de ses ouvriers, mais ça ne fait rien. Et puis, d'ailleurs, le père de Pagnol était instituteur. On a été aussi dans la même école au Chartreux. J'étais dans l'école primaire. Sauf que j'étais à l'école paroissiale et que Joseph, évidemment, était à l'école communale. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, quand mon père m'a fait revisiter Marseille, le Marseille de notre enfance. Voilà, sinon, ce dont je me sens le plus proche, c'est en effet dans l'idée de faire vivre, et je dirais d'imposer à nouveau à notre époque, la notion d'une culture provençale qui a disparu. Aujourd'hui, je trouve que dans les cultures méditerranéennes sont bien plus présentes à travers des artistes comme, je sais pas, comme Fellah, comme Jamel, oui, comme oui. La culture algérienne, marocaine, enfin tout le bassin méditerranéen, toutes ces influences-là sont venues. Mais on a oublié dans la bagarre, si j'ose dire, une culture qui est toujours vivante et qui existe toujours, qui est la culture provençale.
Oui,
d'où ma passion pour Suarez, pour des auteurs beaucoup moins connus, mais qui sont André Benedetto, Lavignonnet. La culture provençale, c'est devenu une affaire de régionalisme, une affaire politique, une affaire... Mais on a oublié la force, l'importance, jusqu'au troubadour, jusqu'à la culture du Moyen-Âge, de cette identité provençale. Voilà. Et ça, par contre, c'est en ça que je me sens proche de Pagnol et que j'espère en être un descendant.
Alors, il y a un point sur lequel vous n'êtes, alors là, vraiment pas sur la même planète que lui.
Oui.
C'est toute l'importance qu'a prise dans votre carrière l'improvisation depuis les années 80.
Oui,
avec des choses très très impressionnantes. Hein.
Il improvisait beaucoup, Pagnol aussi. Hein.
Oui, mais vous trouvez que...
Ah ben quand même dans Marius, il y a des choses que dirait Mu qui ne sont pas dans le texte. Hein. Alors, il les a rajoutées, mais la mer, ah la mer. Vous voyez que vous parlez d'accent, par exemple. Comment vous voulez faire ça? La mer, quand Marius dit ta mère. Voilà, ça, il faut l'accent.
Mais, hein, mais la danse du diable, le roman d'un acteur, l'homme qui danse, tout
d'accord,
ça, c'est...
Oui.
Donc, chez vous, à quoi a correspondu, c'est sans équivalent en France, hein, quelqu'un...
Oui, oh, c'était pas le but, hein. je suis pas un fan de sport, donc la compétition, c'est pas les... Mais il y a aussi un point très important qu'on a oublié, dans lequel je me reconnais avec Pagnol, c'est son goût pour les femmes. Voilà, il aime beaucoup les femmes, Pagnol, hein. Et j'aime beaucoup les femmes.
Jacqueline veillait au grain, quand même.
Oui, mais avant Jacqueline, il y en a eu pas mal, quand même. Et puis, d'ailleurs, ça a bien fini, parce que Jacqueline, c'est quelque chose.
Oui, dites-nous, mais cette passion des femmes est une passion esthétique, une passion...
Une passion humaine. Ah non, c'est pas esthétique, c'est humain, c'est important. La féminité chez Pagnol et l'importance des femmes est importante, c'est très important.
Oui, ça m'a fait perdre le fil, ça.
Oui, ça m'a fait perdre le fil, mais oui, mais c'est important quand même de le dire.
Oui, mais tout à fait. Non, sur l'improvisation.
Sur l'improvisation, oui, mais vous savez, il y a encore un paradoxe, c'est que moi, tout mon travail, ça a été un gros travail, et c'était un projet littéraire au départ. Je voulais écrire un roman, moi, je voulais écrire le roman de ma vie. C'était pas très original, mais bref, j'avais 27 ans,
déjà,
26 ans, 27 ans, voilà. Et moi,
13 carnets, c'est ça, 13.
Oui, 11 carnets.
11 carnets, oui.
Que j'ai édité 20 ans après sous le titre Les carnets d'un jeune homme. Et en fait, le projet littéraire, je venais de découvrir Proust, et le projet était de me dire, si on arrivait à faire la même chose sous forme de théâtre, ça serait extraordinaire, qu'on voit les personnages. Et après, j'ai découvert d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt, que Roger Martin-Dugard et Copeau avaient eu ce projet. Roger Martin-Dugard disait, parce que Copeau était un sublime écrivain, mais sa carrière d'écrivain ou son destin d'écrivain était mangé par le théâtre. Et Martin-Dugard lui disait, il faut que tu écrives un roman autobiographique théâtral. Et Copeau a eu longtemps ce projet, et ça je l'ai découvert après, hein, c'est pas ça qui m'a donné l'idée, j'ai découvert plus tard. Mais voilà, donc l'idée, elle était en effet de faire une comédie humaine, comme Molière, mais
Balzac.
Autobiographique, c'est-à-dire de sortir de moi les masques de la comédie dell'arte, qui avait été ma vie, ma mère, mon père. Alors je savais pas au départ que ce serait aussi proche vraiment de ma vie, que ça serait vraiment ma mère, vraiment Ariane, que les gens allaient porter leur prénom, que je pensais jamais que je serais confronté à une telle horreur, que j'ai poussé le calice. J'espérais qu'il serait beaucoup plus romanesque, transposé, etc., donc plus confortable. Et puis non, le travail, l'inspiration m'ont obligé, et puis Jean-Pierre Taillade, qui a été celui qui m'a amené à ça, m'ont quelque part obligé à cette espèce de déballage, parce que c'est qu'un déballage, hein, une autobiographie, qu'on le veuille ou non. Après, c'est affaire de style et d'esprit, mais c'est autre chose. Mais donc voilà, je me suis mis à jouer, non pas ma vie d'ailleurs, mais ma jeunesse. Et c'est devenu une jeunesse, ça aurait pu s'appeler une jeunesse, et une jeunesse française peut-être même. Et voilà, c'est devenu le récit d'une jeunesse, mais sous cette forme théâtrale. Et l'écriture particulière au théâtre comique, c'est quand même l'improvisation. Même Molière, ça c'est venu beaucoup évidemment de ma fréquentation de Molière, l'écriture de Molière est venue de la Commedia dell'arte et de la fréquentation des auteurs italiens, et de cette manière de considérer le théâtre comme une chose mouvante, fluctuante, pas inscrite dans le marbre.
Avant Goldoni, quoi, un peu.
Voilà, c'est ça, exactement, avant que Goldoni ne fige et n'éternise aussi la Comédie dell'Arte.
Mais donc c'est parti de là.
Oui.
Vous avez commencé ça il y a une trentaine d'années.
Oui, en 1981. Oui.
Grâce d'ailleurs, Avignon a joué un rôle essentiel dans votre carrière.
Oui, bien sûr.
On peut le dire.
Oui,
hein.
Oui.
Mais quand vous exprimez donc tout ce que Ferdinand est aujourd'hui devant des jeunes qui ont 20 ans, est-ce que vous avez l'impression de dire la même chose que ce que vous disiez il y a 30 ans ? Est-ce que c'est perçu de la même manière ?
Écoutez, alors dans cette histoire qui a duré en effet presque 30 ans, ouais, 27
30
ans,
ouais.
Elle a duré 27 ans. C'est énorme, oui. Je pensais que j'en avais pour 2 ou 3 ans, mais je me suis mis dans l'œil. Donc, il y a eu plusieurs générations de spectateurs. Il y a eu les parents qui avaient mon âge. Ensuite, il y a eu leurs enfants. Et il y a presque eu leurs petits-enfants. Donc, tel Johnny, tel Johnny Hallyday, j'ai eu ce...
Qui est votre idole. Hein,
j'ai une de mes idoles. Il l'était surtout quand il était un peu has-been. Il y a une époque, on ne parlait plus du tout de lui. Et moi, j'étais très, là, une fervente idole. Depuis qu'il est revenu sur le devant de la scène, il l'est un peu moins. Mais disons qu'il y a eu, donc, eh ben, ma surprise a quand même été qu'on a trop l'idée que la jeunesse est inscrite dans l'époque actuelle, et c'est pas vrai. Au fond, il y a des choses éternelles, et que la jeunesse de Ferdinand, c'est un jeune homme, finalement, elle concerne les jeunes d'aujourd'hui autant qu'elle concernait les jeunes de mon époque. Et en plus, les jeunes d'aujourd'hui voient l'histoire de leurs parents, c'est-à-dire, quand je jouais Ferdinand, je jouais la jeunesse de leurs parents, donc il y a cette affection qu'il y a parmi la jeunesse aujourd'hui pour les années 70, etc., elle vient aussi beaucoup de là. Elle vient d'une époque qui a été formidable pour la jeunesse, mais aussi de ce que c'est la jeunesse de leurs parents. À un moment donné, j'avais réalisé que moi, de mon temps, si quelqu'un avait joué sa jeunesse avec le même recul historique, un poilu de la guerre de 14 aurait pu jouer les tranchées, aurait pu jouer ce qu'il avait vécu dans les tranchées devant moi, et j'aurais, vous voyez, la distance historique et du temps était semblable, quoi. Donc, je pense que, non, j'ai toujours eu un public très très jeune avec ces spectacles.
Alors, je me suis renseigné, hein, parce que j'avais peur de me tromper, mais tout le monde m'a dit la même chose. Vous êtes le comédien français vivant qui s'est trouvé le plus souvent seul sur une scène.
Ah, probablement, oui.
Ah, ça, c'est clair.
Oui.
Alors, donc, par rapport à d'autres comme Lucchini, Weber, Huster, est-ce que vous considérez que vous avez une démarche particulière quand vous faites ça ou pas ?
Oh, oui.
Dans votre relation avec le public ?
Oui, ben déjà, j'écris les spectacles.
Ouais, ouais,
et puis,
ouais.
Je dirais, je suis surtout l'acteur seul qui a fait le plus de spectacles.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que j'en ai fait 20 ou 22 ou 23, je ne sais plus.
Mais en général, un one-man show, si vous voulez,
on le crée et puis on le joue pendant 3 ans, 4 ans, on fait des tournées, etc. Parce qu'il n'y a pas cette idée d'écriture. Quand j'ai commencé à comprendre qu'il allait y avoir des épisodes, que ça allait être un roman, et donc je savais le bout, puisque j'avais tout improvisé au départ. Ça a été improvisé au départ. Donc je savais le bout, je ne savais pas quand il arriverait. Mais mon obsession n'était pas de tirer profit des spectacles, mais au contraire, comment je vais faire pour faire le suivant, puis le suivant, puis le suivant.
Mais qu'est-ce que ça vous apporte de spécifique d'être tout seul sur une scène ?
C'est la liberté. C'est la liberté, c'est la page blanche, c'est-à-dire ça correspond exactement à la page blanche pour l'écrivain. Le plateau nu, c'est la page blanche de l'acteur-auteur. Sur un plateau nu, on peut faire ce qu'on veut, on peut être qui on veut, on peut être les hommes, les femmes, la nature, les maisons, les lois du théâtre explosent. Voilà, on est comme dans un film, on est comme dans un roman, tout est possible. Voilà, et on va beaucoup plus vite, et on n'a pas à subir les états d'âme des autres comédiens, et leurs revendications syndicales, et on peut travailler 12 heures par jour, et on n'a pas à négocier, je ne sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de choses, voilà,
ça coûte moins cher. Je vous pose cette question-là, parce que Robert Renucci, qui vous a précédé dans cette série, au moment où il lisait sur scène des textes de Proust, nous a dit la chose suivante, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que, grâce à cela, je passe dans mes relations avec le public du jeu, J-E, au nous, N-O-S. Tout à coup, il se passe quelque chose, quoi, qui ne se passe pas dans une pièce classique.
Peut-être, oui, il a raison. C'est vrai aussi que la relation... Alors en plus, quand on joue sa propre vie... Puis moi, je jouais beaucoup de femmes en plus, et c'est important. Un homme qui joue des femmes, c'est spécial. Hein.
Surtout quand on les aime autant. Hein.
Oui.
Sans trahir
votre... D'ailleurs, c'est la preuve que je les aime. Sinon, je ne jouerais pas. Puis attendez, je joue des engins. Hein. Je joue Ariane Mnouchkine, je joue Clémence, je joue des morceaux. Hein. Et je veux dire qu'il s'établit en effet une relation érotique avec le public... Vraiment, qu'on peut retrouver d'ailleurs avec les chanteurs, hein, qu'on peut retrouver, que moi j'ai vécu avec Léo Ferré, que j'ai vécu avec Johnny bien sûr, ou avec Bob Dylan, ou avec Zouk. Il s'établit une relation érotique, intime, qui est un peu proche de celle du cinéma d'ailleurs, mais beaucoup plus forte parce que c'est en vrai. Alors que la relation avec un spectacle, avec plusieurs acteurs, qui peut aussi être beaucoup plus grande pour d'autres raisons, est différente, c'est juste, c'est vrai.
Alors vous avez évoqué plusieurs fois Ariane Mnouchkine, ceux qui ont vu ce film ne l'ont certainement pas oublié, 1978, Molière, vous étiez, hein, on peut le dire, très simplement bouleversant, on était là, les gens qui avaient la larme facile, il y en avait beaucoup. Est-ce que c'est avec Molière que vous sentez le plus d'affinité, en fait, dans l'univers historique du monde des comédiens ? Alors, je pense à ça parce qu'il y a aussi le côté chez vous. On a l'impression que vous êtes un théâtre ambulant.
C'est difficile de dire non. En même temps, je n'aime pas toute l'œuvre de Molière de manière égale. Non,
bonhomme,
il y a des pièces de Molière qui m'emmerdent.
Qu'est-ce qui vous emmerde dans les pièces de Molière?
Il y en a qui m'emmerdent. Je ne sais pas comment dire. Le Bourgeois Gentilhomme, par exemple, ça m'emmerde. Il y a des pièces de Molière qui sont vraiment Molière. De toute façon, la pièce que j'aime par-dessus tout chez Molière, c'est Don Juan. Et j'aime cette pièce depuis toujours, je l'aimerai toujours. J'ai d'ailleurs le projet de la rejouer, parce que j'ai joué Don Juan jeune.
Oui, oui.
J'aimerais bien jouer un Don Juan vieux, un peu pédophile.
Oh,
donc, voilà, ça vient. Et donc, j'aime, par exemple, Don Juan. Or, c'est une pièce très atypique de Molière. Elle se passe dehors, et elle a été écrite très vite. Elle a été faite pour les machineries. C'est une pièce qu'il a pris presque à la légère à l'époque. Elle était faite pour remplir le théâtre avec des machines, avec une statue qui bouge, avec des pétards et des choses comme ça. Et du coup, cette pièce a une dimension pas moliérienne, presque shakespearienne, fantasmatique. Et puis, ce qui joue dans cette pièce est tellement révolutionnaire, subversif et pour le coup français vraiment, que par exemple en ce moment, je ressens vraiment le besoin de jouer cette pièce. Je ressens vraiment le besoin idéologique de jouer cette pièce, de rappeler à la jeunesse ce que c'est que la liberté. Ça me paraît
vous
être
parlez...
quelque chose. Alors qu'il y a des pièces de Molière qui parlent d'autre chose. J'adore l'avare.
Il y a les textes, c'est vrai. Hein. Le monologue du père, par exemple, c'est un texte faramineux. Quoi.
C'est extraordinaire, bien sûr.
Politiquement.
J'aurais rêvé d'être un Molière, mais j'ai pas su l'être puisqu'il a fallu que je sois seul pour jouer. Alors lui, Molière, il s'est vraiment tapé une troupe.
Hein. Regrettez pas, vous faites une belle carrière.
Des fois, je regrette.
Alors,
mais
vous parlez de subversif, vous parlez de tout ça. Et moi, je remarque une chose, c'est que on n'a pas du tout évoqué. C'est pas le sujet de l'émission, mais quand même, je peux le dire au passage. Vous avez, disons, des engagements politiques d'extrême gauche. Hein, vous le
voyez,
vous n'avez jamais renié.
J'en ai eu.
Tout
oui.
en étant, et vous le disiez tout à l'heure, tout en appartenant à une famille très bourgeoise de Marseille.
Ah, oui.
Et vous avez rompu avec cette tradition familiale. Moi, ce que je voudrais vous demander, c'est aujourd'hui, avec le recul de quelques petites décennies, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir le plus gardé de cette tradition familiale, malgré tout ?
Oh, beaucoup de choses. Je suis vraiment un pur produit de ma famille.
Tout en étant
tout
politiquement...
Tout l'aspect d'extrême-gauche dont vous parlez, oui, qui d'ailleurs est moins certain en ce moment, j'ai beaucoup plus de mal à voir où je suis.
Vous avez beaucoup donné, hein ? Vous avez beaucoup
donné.
Oui,
mais sincèrement, j'ai beaucoup plus de mal à savoir où je suis, avec des gens qui me sont sympathiques, mais auxquels je n'arrive pas vraiment à adhérer. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je trouve vraiment sympa, mais je n'adhère pas à son côté Fouquet-Tinville, etc. Donc, vous voyez, pour donner un exemple.
Oui.
Mais mon goût pour la subversion, il vient vraiment, alors là, de ma toute petite enfance. Il vient de ma mère.
Ah,
il vient
mère.
De ma mère. Ma mère était une anarchiste de droite, comme on dit, terrifiante, hallucinante, contradictoire.
Ça donne quoi, alors ? Ça donne
elle
quoi,
aimait à la fois Pétain et De Gaulle.
C'est Marcel Aimé.
Voilà, c'est, je ne sais pas. Elle m'a fait découvrir Godard, Paul Nizan, Aragon, et en même temps, elle était
vous
férocement
savez,
anticommuniste.
Où Nizan a été découvert pour la première fois ? En première page de l'Action française. C'était pas à l'extrême gauche, hein. C'est Charles Maurras qui a fait un papier sur Nizan, disant « Lisez Nizan, c'est le plus grand écrivain de sa
bien
génération. »
Bien sûr, mais ça c'est l'histoire de la littérature française, hein, où Léon Daudet...
Votre...
Non mais vous avez raison,
non, c'est Daudet,
je
c'est
le
pas,
savais pas.
C'est pas Maurras, c'est Daudet.
Voilà,
première
Léon...
page de l'Action
voilà,
française.
Mais Léon Daudet, c'est
lisez,
un très grand
lisez Nizan.
Écrivain, et très grand, c'est lui qui a fait découvrir Proust, etc. Donc voilà, ma mère était dans cette idéologie-là complètement baroque, son père était un collaborateur passif, mais collaborateur quand même, et en même temps, elle faisait voir Nuit et Brouillard quand on avait 12 ans avec ma sœur, on faisait des cauchemars affreux. Mon père, lui, qui était un bourgeois plus moyen, était scandalisé, ils aimaient qu'il leur montre des choses horribles, et ma mère disait, il faut qu'il sache, enfin bon, elle ne se pardonnait pas cette histoire-là. Donc si vous voulez, je dirais que... Et d'ailleurs, en 68, quand je suis arrivé en 68, il faut dire que j'étais chez les sœurs, parce que j'étais viré de tous les lycées, recueilli par des sœurs absolument merveilleuses avec qui on a fait les événements. Je n'étais pas du tout politisé d'une manière classique. Moi, j'étais pour Malraux. Donc, vous voyez, c'était vraiment... je m'étais fait insulter par les manifestants parce que je criais « Vive Malraux !» Je n'avais pas compris que... Moi, Malraux, c'était l'espoir, c'était l'Espagne, c'était etc. Donc,
c'est ce
voilà.
qui restera.
Et puis, j'ai été initié politiquement par les trotskistes de la Ligue communiste à l'époque. Et ils se trouvaient être des gens extrêmement brillants, extrêmement cultivés. Et moi, qui ne m'intéressais pas à l'histoire, qui m'intéressait... J'ai été passionné par... Le premier, c'était sur la Commune de Paris, le récit de Lissagaray, la Commune de Paris, Louise Michel, etc. Donc, je suis parti dans la politique par la découverte de l'histoire faite par des trotskistes. Donc, vous voyez, c'est une affaire assez compliquée, en fait. Voilà.
Philippe Cobert, merci. Ainsi s'achève cette émission. Je rappelle donc que vous êtes
déjà,
avec...
Déjà, c'est dommage.
Ah bon, on pourra recommencer, c'est gentil. Je vous rappelle donc que vous êtes avec Michel Galabru à l'affiche jusqu'à la période des fêtes, hein, de cette fin d'année 2010, à l'affiche donc du Théâtre Marigny, avec une des plus grandes réussites, hein, j'insiste, hein, de la première partie de la saison théâtrale 2010-2011, spectacle intitulé « Jules et Marcel », réalisé à partir de la correspondance échangée entre Pagnol et Rému. Et puisque nous parlions, nous avons beaucoup parlé du rire donc dans cette émission, je voudrais, avant de nous quitter, citer deux phrases de Pagnol, deux phrases qui soulignent bien la complexité et la richesse de sa pensée. Alors la première, vous l'avez dit, Philippe, à propos du rire donc dans votre spectacle, elle est superbe. « Dieu l'a donné aux hommes » pour les consoler de leur intelligence. Et la seconde, qui est un viatique, méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux. Philippe Cobert, merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci beaucoup à vous.